L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Frédéric Viguier, bonjour. Après « Ressources inhumaines » en 2005 et « Aveu de faiblesse » en 2017, vous publiez « La vérité n'aura pas lieu » aux éditions Plomb cette fois. Troisième roman donc, qui commence par des aveux, ceux d'un auteur qui a écrit deux romans et qui se trouve en mal d'inspiration, bien qu'encouragé par Isabelle, son agent, qui le stimule à écrire des meurtres et à suivre la veine de Truman Capote. Je vous cite, la figure ronde de ce génie des lettres n'a rien de tutélaire, elle m'écrase de son aura, de son savoir-faire. Et voici qu'une lettre d'une femme de 72 ans, Gisèle Chabot, lui propose d'écrire sur son fils dont le calvaire se trouvait dans Aveu de faiblesse, du moins le croit-elle. Il ne s'agit pas d'un travail de nègre, le porte-plume d'aujourd'hui, mais bien d'un roman centré sur Sylvain Chabot, accusé si perfidement de pédocriminalité qu'il finit par se suicider. Alors le narrateur commence à éplucher les documents que Gisèle lui remet, et se met à la tâche. Ce qui devait arriver arriva. À la lecture des premiers chapitres, la commanditaire regrette d'avoir fait appel à un romancier, à un artiste qui n'en fait qu'à sa tête. Or, maintenant, il se passionne pour cette histoire. Va-t-il continuer ? Va-t-il arrêter ? Il est pris par le destin de ce pauvre Sylvain. Et je vous lis tout de suite un extrait. Elle ne comprend pas pourquoi je tente systématiquement de faire de mon personnage un fils si différent du sien, alors que je lui réponds que je n'ai jamais écrit sur commande et que le seul moment où j'arrive à enchaîner quelques phrases qui se tiennent, c'est lorsque je ne réfléchis pas à ce que j'écris, quand je fais confiance non pas à ce que j'ai accumulé en tant que matériau créatif, mais à tout ce que j'ai digéré. Voilà commence votre roman, Frédéric Viguier. Et finalement, le vrai personnage, le vrai sujet de votre roman, c'est la littérature.
Oui, tout à fait. Surtout dans la phrase, dans la phrase de démarrage, hein, où le narrateur ose dire que
je ne suis pas devenu un écrivain à plein temps par passion de la littérature ou parce que j'ai dans la tête des idées et des pensées que je juge dignes de figurer dans un livre.
Et oui, alors il fallait oser l'écrire dans un livre qui faisait la rentrée littéraire.
Oui,
mais c'est la vérité en plus. C'est ça qui est fou. C'est que je suis rentré par effraction, par hasard, en fait, en littérature.
Oui, vous dites en littérature comme en religion.
Oui, parce que j'ai fait le choix de porter la robe de bure et de j'étais un affairiste, j'étais un capitaliste, j'avais pas l'image de l'artiste de la famille, sauf pour ceux qui me connaissaient, parce que j'avais toujours des idées un peu loufoques, mais... Et puis j'ai fait le choix de consacrer ma vie à créer.
Le plus important, donc, c'est cette énergie de la littérature, la réalité littéraire. Je veux me persuader que c'est moi qui ai raison quand j'affirme la cantonade que seule l'intuition permet de se rapprocher de la vérité des êtres.
Ça, j'en suis complètement convaincu. Et c'est grâce au théâtre que je l'ai appris, ça. J'ai écrit une pièce de théâtre en prenant le prétexte d'un centenaire autour d'Aoun Taziev. J'ai contacté le fils caché d'Aoun Taziev. Je lui ai dit, je suis fou de votre père, j'ai écrit une pièce sur lui, ce qui était faux, complètement faux. Mais je sentais qu'il fallait que je fasse l'opportunité des commémorations. Et donc, il me dit, mais venez me voir samedi, vous me lirez la pièce. J'avais rien écrit. En trois jours, j'ai écrit un acte ou deux. Et j'ai lu, j'y suis monté. Mais j'ai besoin de ça. Hein, ça c'est pas un effet de style, ce que je dis, là. J'ai toujours besoin dans l'urgence, en fait, pour créer quelque chose. Et donc, je vais lui lire le début de ma pièce, et il se met à pleurer. Il me dit, mais vous avez tout compris.
Bravo.
Alors qu'au moins, la lave et les volcans...
Ouais.
Alors,
Voilà, je
tournais, j'étais pas plus fasciné que ça. Aroud Taziev, ma génération, on le connaît avec sa gouaille et sa voix, mais...
Oui, il y avait Aroud Taziev et le commandant Cousteau.
Voilà, il y avait les deux, ouais, il y avait le bonnet et le russe. Mais le bonnet rouge et monsieur et le russe. Mais bon, globalement, j'ai compris Alors pourquoi j'ai compris ça intuitivement, on va dire, ça m'est venu, mais après j'ai compris aussi que c'était la manière de travailler. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis dans une sorte d'hypnose... je sais pas ce que je fais, en fait. Mmh. Je me mets à écrire, je sais qu'il est 1h29, et je lève les yeux, il est 3h10, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc je ne profite pas du moment de la création. Mmh. Je fais donc partie de ces auteurs qui aiment avoir écrit. Mmh. Et tant mieux, parce que j'en profite pas.
Alors, on revient sur La vérité n'aura pas lieu, que vous publiez chez Plon, à chacun sa vérité, disait Protagoras. Et voilà que le projet est un peu foutu par la grand-mère. Et donc, vous décidez de... Enfin, le narrateur décide d'aller dans la vérité de Sylvain, puis dans la vérité de l'épouse, Alice, puis dans la vérité de Cassandra, leur fille, avant un épilogue et une dernière phrase qui tombe comme la lame d'une guillotine, il faut le dire. Alors, dans un polar, on cherche qui est sincère, qui simule, qui se cache, qui ment. Ici, sous des innocences évidentes, comme une espèce de forme de pureté, se trouve un volcan, des volcans. Vous parlez d'Aaron Taziev, mais vous les avez bien placés, ces volcans. Des trois fois rien insignifiants, un certificat médical antidaté, des photos sur l'écran d'un téléphone portable, des conduites en voiture. Et entre ces quatre vérités, celle de la mère, du fils, de la belle-fille et de la fille, on lit les déambulations d'un narrateur qui s'interroge, qui cherche, qui bouscule les idées reçues, non pas comme un enquêteur, mais comme un démiurge. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une enquête policière, vous êtes dans la création d'un mythe.
Et oui, c'est bien dit, hein, il n'y a plus rien à dire là. Parce que c'est un peu ce que j'essaye d'affirmer, c'est-à-dire que sous couvert d'une modestie, je dirais de comptoir, entre guillemets, le narrateur, il se met dans ses postures un peu de raté, de type qui n'est pas très passionné par la littérature et qu'il devient. Finalement, cette histoire lui donne le goût, la littérature. Il comprend, en fait,
la consistance.
Voilà, c'est ça. Je voulais faire comprendre, parce que cette femme lui dit, c'était vrai, parce qu'il faut quand même dire que cette dame du livre, je l'ai connue. J'ai été contacté par
Alors ?
Si. J'ai été contacté par une dame, qui ne s'appelle pas Madame Chabot, pour des raisons juridiques évidentes, mais qui m'a dit, je veux que vous racontiez l'histoire de mon fils qui a vécu un calvaire entre les mains de la police, de la gendarmerie, dans la vraie histoire, bref, et qui s'est suicidé après les accusations d'actes pédophiles. Et j'ai compris tout de suite qu'il y avait un sujet qui m'intéressait, parce qu'on m'a amené sur un fait divers sur un plateau, et évidemment, tout n'était pas aussi clair que ce qu'elle voulait me le dire. Donc c'était très intéressant de s'immiscer là-dedans et d'affirmer... Alors, pas devant elle, mais à l'écrit, que le pouvoir, enfin, en tout cas, le point final, comme on dit aux États-Unis dans les scénarios, le final cut, il était à moi. Mais dans le livre, je dis aussi qu'il n'est pas qu'à moi. Il est au lecteur.
Mais oui, évidemment.
Parce que le lecteur, il interprète tout.
Le lecteur, à la fin du livre, on pose le livre et on repense au livre, où on peut le relire d'une toute autre façon.
Voilà. Alors, c'est un peu
le cas. Ça, c'est votre côté proustien.
Oui, alors, merci de surcroît, mais c'est surtout. Sur le deuxième roman, on m'avait fait cette remarque. Je faisais un retournement de finale où les gens me disaient : on a relu votre livre pour comprendre à quel moment vous vous fichez de nous, en fait. Et dans celui-ci, je savais qu'il fallait que je fasse une fin, comme disait mon agent, telle que je sais les faire, c'est-à-dire une fin qui retourne et qui laisse un peu pantois le lecteur. Or, cette fin...
Et là, on sent l'homme de théâtre.
Il est vrai. J'espère que vous l'avez ressenti dans les dialogues, surtout.
Ben oui, bien sûr.
Mais c'est surtout que je n'osais pas écrire cet épilogue. Je le gardais. Pourquoi ? Évidemment, parce que cet épilogue... me met en porte-à-faux vis-à-vis de la réalité.
Mais oui, bien sûr.
Et donc, je le retenais. Et puis, c'est un éditeur qui m'a dit « Votre manuscrit est très bon, mais vous laissez une fin trop ouverte. On a envie que vous nous affirmiez deux, trois choses. » Et donc, j'ai écrit cet épilogue, mais je dirais 15 jours avant de signer un contrat d'édition. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que je l'ai...
Et en ingé.
Ah oui, en ingé, parce que je l'avais, en fait.
Oui, évidemment.
Mais je n'osais pas y aller, en fait. Voilà, je n'osais pas y aller.
Alors, lui, c'est un type épatant, Sylvain. C'est un type remarquable. Tous ses amis, ses collègues avec lesquels il organisait des raids motocyclistes, ceux de la chorale, ceux du club de ping-pong, ceux de l'association culturelle, son voisin avec lequel il réparait des épaves de voitures, les personnes du club de marche, celles de la fanfare du village, personne n'a compris comment un être aussi passionné avait pu se résoudre à se donner la mort. Et c'est vrai qu'il est très engagé dans la vie associative, il est très engagé dans le village, il a été maire.
Pas maire, non, au conseil municipal.
Il est au conseil municipal, enfin, ouais. C'est un type qui se donne.
Voilà, qui comme on dit, il participe à la vie sociale et culturelle et du village et associative, enfin tout.
C'est et ce type rabroué par des flics va se suicider.
Et oui, alors je pense... Alors, le thème du suicide, on revient souvent dans mes livres, c'est quelque chose qui me fascine. quand Bernard Buffet se met un sac poubelle sur la tête pour mourir, ça me fascine. Mmh. Ouais, bon.
Quand Monterland se tire une balle, vous connaissez l'histoire.
Non.
Monterland était extrêmement ponctuel. Et donc, il ne supportait pas une seconde de retard. Et il appelle son meilleur ami à 16h. Le meilleur ami, pile à 16h, sonne. Et on entend un coup de feu derrière la porte.
Ah oui, ça c'est...
C'est horrible.
Non, c'est magnifique. Mais voilà. Bon, alors, le thème suicide revient souvent parce que donc j'ai beaucoup à tel point que je vais vous dire un truc extraordinaire. J'étais à un salon du livre et un espèce d'universitaire qui croyait tout savoir commence à affirmer que la jeunesse va de plus en plus mal et donc elle se suicide de plus en plus. Mm. Bon. Or, je sais, moi, que le nombre de suicides, il est pratiquement toujours le même, quel que soit le nombre. Je crois qu'en France, c'est autour de 10 000 personnes qui se suicident. Et l'endroit de France où on se suicide le plus, ou enfin, en tout cas, beaucoup, c'est la Corse, étonnamment. Alors qu'il y a du soleil et des nanas, comme dirait l'autre. Eh bien, il ne faut pas le dire, ça, non plus. Mmh. C'est plus... Mais enfin, voilà. Coupé. Et donc...
Non, mais il y a des filles.
Donc, je m'étais intéressé à ça, parce que... On ne peut pas dire qu'il y a une époque pire qu'une autre qui va pousser les gens à mettre la fin à leur vie. Mais en l'occurrence, il y a un élément déterminant dans le suicide, c'est la perte de tout ce qu'on a bâti.
Oui.
Voilà. Donc lui, alors, il a bâti une apparence.
Il a bâti quelque chose. Voilà. Et puis alors, le personnage central, parce qu'il n'y a rien de méchant, c'est Manon. Manon, 15 ans, particulièrement développée, belle à croquer, autoritaire et espiègle. Elle joue toutes les cordes de la séduction. C'est la meilleure amie de Cassandra, la seule amie même, qui vient pratiquement tous les week-ends chez les Chabots. Et je cite, c'est Cassandra qui parle. Contrairement à moi, Manon possède un téléphone portable. Elle dit que c'est un instrument indispensable pour façonner sa personnalité et qu'une personnalité sans mystère n'a aucune valeur. Elle insiste. Elle me dit que pour se faire respecter, il faut être mystérieuse. Sois mystérieuse, ou bien tu vas finir vendeuse de poulets rôtis sur la place du village, elle me dit. Et
j'ai oublié celle-là.
Et on a cette Manon qui est tout à fait charmante et espiègle, que les parents, par générosité, Sylvain et Alice reçoivent tous les week-ends. Lui, il rentre du boulot, il rentre d'Espagne, il a un trajet à faire, il passe devant la maison de Manon. Forcément, il l'emmène pour la ramener chez lui pour passer le week-end avec sa fille. Et puis un jour, il y a un truc de sport et puis elle rentre du sport fatiguée, les deux filles, et lui va leur masser les jambes parce qu'il a appris à masser les jambes, alors ouais. À sa fille et puis à Manon, puis la fille a tourné la tête, elle ne regarde pas Manon, puis ensuite Manon va accuser le pauvre Sylvain et lorsque les flics vont venir chercher Sylvain, et là c'est très très grave, le moindre détail lui revient en boomerang. Ouais, et à ce moment-là, on se dit, mais c'est pas possible, ce type est un salaud. Alors que c'est pas un salaud, c'est un type merveilleux.
Et oui.
Enfin, c'est compliqué.
C'est le problème de l'apparence, là, l'apparence des choses. Dans mon premier roman, j'écrivais que dans le monde du travail, il y en a un qui disait à un autre, il disait, tu sais, l'important, c'est pas de savoir faire les choses, c'est de faire croire que tu sais les faire. Dans le monde de l'entreprise. Et dans la société, c'est un peu pareil. Vous savez, ceux qui savent bien parler, qui se présentent bien, qui savent se vendre, comme on dit, et ont plus de chances de moins vivre de malheurs ou de problèmes
que les autres. Je parlais d'innocence tout à l'heure. C'est l'innocence des écolières, mais qui n'est peut-être pas si innocente que ça.
you're coming along.
Même la chute ressemble à votre roman, Frédéric Viguier, c'est un extrait school de Crime of the Century de Supertramp que nous avons tous reconnu. Naturellement, et nous parlons de votre livre, La vérité n'aura pas lieu, Frédéric Viguier, chez Plon. Et alors, le personnage, on a parlé de Manon, on a parlé de la petite fille Cassandra, et puis autre personnage, c'est Alice, la femme de Sylvain, qui est amoureuse de son mari, qui le soutient, qui est très présente, qui sait engueuler les policiers, qui découvre les mensonges des uns et des autres, des parents de Manon, des flics. Tout peut être pris à contresens. On lit les procès-verbaux, vous nous mettez les procès-verbaux des interrogatoires de Sylvain, d'Alice, de Cassandra, et c'est glaçant de voir comment tout peut vous condamner, un geste, un mot, une insignifiance.
Oui, c'est...
Si on était au commissariat de police à leur place, on serait quand même très très mal.
On serait très très mal, oui. Et je pense que quand on est pris dans la lessiveuse du doute et de la... En fait, c'est ça, le début du doute. Quand le lecteur lit une histoire et qu'il commence à se dire c'est lui, il va rester jusqu'au bout à trouver tout ce qu'il peut pour avoir raison.
Et, oui.
Et je pense que des enquêteurs et même une personne lambda d'un village qui peut avoir un avis sur quelqu'un dont on dit quelque chose. Hein, mais je pense que dès qu'on a une certitude qui n'est même pas étayée par des preuves, on y reste, on s'accroche dessus. Et l'intérêt de mettre à chaque fois les vérités de chacun, c'est-à-dire que chacun parle en son nom.
Absolument. C'est un jeu d'acteur pour la grand-mère, le père, la femme et la fille.
Voilà. Ça permettait de décrire des scènes identiques par le point de vue de personnalité et d'âge. Alors, il y a une chose que j'ai réussi, je pense.
Ouais.
C'est personne m'a fait la remarque ou le reproche de me dire « Oui, mais ils parlent tous pareil. » Or, non. Ils parlent tous pareil.
Oui.
Il n'y a aucun effet de style, je n'ai pas mis des mots de jeune dans la...
Oui.
Or, ils ne pensent pas pareil.
Absolument.
Et ça, pareil, je l'ai appris, en fait, en écrivant. Je me suis dit, pour faire parler
un adolescent,
mais en tout cas un personnage de roman, il faut pas chercher à lui trouver un style d'expression. Il faut trouver la pensée. Une fois qu'on a sa pensée, on a gagné, en fait.
Oui.
Et c'est ça où
c'est gagné. Je vous cite. « J'aurais écrit un gentil roman qui aurait trouvé son public parmi les offusqués polis des accusations mensongères, et ma vie se serait satisfaite de cette médiocrité reposante. Mais rien du tout. J'ai mené mon travail de déconstruction délibérément. Il est donc trop tard pour me lamenter. Qui me croirait sincère? J'ai fait d'une histoire d'argent un roman qui sera lu. Alors autant assumer ce nouveau livre au nom de la littérature. » Et là, on sent que l'auteur, enfin le narrateur, mais on voit bien, et vous racontiez que c'est quelque chose qui vous est arrivé au moins sur le point de départ, on sent que vous êtes toujours sur la corde raide, et au bout d'un moment, les pages s'accumulent, et vous vous dites, il faut aller jusqu'au bout du truc, même si on va me reprocher tout ce qu'on peut me reprocher, mais je ne peux pas faire un truc calme et médiocre, il faut que j'aille au bout, et peut-être au bout de vous-même, non ?
Bon, là, je ne répondrai pas à cette dernière question-là précisément, mais concernant le problème que l'on a quand on crée un livre et que l'on met en scène des personnes qui ont plus ou moins existé, c'est un peu la panique à bord dans les familles quand elles ont un romancier ou un auteur de théâtre, parce que les personnes que l'on côtoie sont les premières victuailles. Ils sont là, hein. il faut se servir d'eux, donc c'est horrible. Je pense que c'est inconscient quand on est vraiment dans quand on a organisé sa vie pour écrire, créer quelque chose. Je pense qu'on est sans arrêt en alerte inconsciente d'un tic verbal, d'une manière de s'exprimer, d'une manière de répondre en famille. Je parle entre amis et on se nourrit de ça. Et je pense qu'il y a des gens. Moi, mon premier roman, ma mère a refusé de le lire. En disant, tu vas foutre en l'air la famille. On était une famille, on va dire, bourgeoisie classique. Elle avait peur que je dise des choses, de mon point de vue.
C'était Ressources inhumaines, voilà. En 2015.
Et elle n'a pas lu ce livre. Alors, l'horreur de cette histoire, c'est qu'elle est morte le jour de la sortie du livre. Ça, c'est encore une sorte de coïncidence à la Jung un peu perturbante. Mais jusqu'au bout, elle a refusé de le lire. Parce que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui se disent il écrit des livres, c'est gentil, mais il nous utilise, il se sert de nous.
Vous pensez que la compagne d'un auteur, d'un écrivain, se sent regardée, observée ?
Alors, moi, j'ai la chance de vivre. Ma deuxième femme, on s'est connus par rapport au théâtre. Donc, c'est elle qui m'a poussé à écrire un roman, d'ailleurs. C'est pas... Donc, on n'en a pas parlé de ça, franchement, on n'en a pas parlé. Mais je sais, elle sait, elle se retrouve parfois dans certaines descriptions, je pense. Mais on n'a pas parlé. Mais je sais que dans la famille, les personnes qui ont le plus de mal à me faire des retours sur les livres, c'est mes proches.
Oui.
Voilà, alors, quitte à rien me dire, d'ailleurs. Sauf à me dire, tiens, on t'a entendu chez Christophe Maury. Ça, on va me le dire, mais on ne me dira pas un truc sur
le
livre.
Alors, allez voir l'effet de miroir de Léonore Confino au Théâtre de l'Œuvre. Ça se donne en ce moment.
Je le note.
C'est un écrivain qui n'écrit plus, qui n'y arrive plus. Il a écrit deux très très beaux romans. Et puis ça fait 2 ans qu'il est en peignoir et en pantoufle à tourner dans le salon. Et finalement, il a sorti un conte aquatique, un conte pour enfants. Et il reçoit son bon frère et sa belle-sœur à dîner. Et le frère dit l'oursin.
Et voilà.
L'oursin, c'est moi.
Et voilà.
Parce que je peux pas avoir d'enfant. C'est pour ça. C'est pour ça que t'as mis l'oursin. Et explose. Mais allez voir ça, parce que comment la famille tire à elle chacun. Elle sa vérité, et c'est aussi point de vue de votre livre.
Pour rebondir sur là-dessus, en liaison le théâtre, ma première pièce de théâtre qui s'appelait L'Escabeau, qui ne parlait d'aucun travail, à Avignon, un type vient me voir à la sortie, et il me regarde dans les yeux, il me dit « Qu'est-ce que vous avez contre le responsable des ressources humaines ?» Incroyable.
Oui, mais oui, parce que c'est l'effet catharsis.
Voilà.
Les gens se projettent.
C'est ça.
Et effectivement, dans votre roman, Frédéric Viguier, La vérité n'aura pas lieu chez Plomb, les gens se projettent, c'est-à-dire qu'on est tous, et c'est saisissant, j'en ai la chair de poule, on est tous Sylvain, malmené par les flics. Ouais. On est tous Alice, qui ne comprend pas quand on lui dit que son mari l'aurait trompé, mais enfin d'où ? Elle est tellement amoureuse, ils se disent vraiment tout, ils ont une relation quasi fusionnelle. Et puis alors, il y a la proximité avec la mère, parce qu'il suffit de traverser le jardin, enfin le Troène, pour aller chez la belle-mère. Alors elle ne va qu'une seule fois chez la belle-mère, et ça se passe très très mal évidemment, et la belle-mère à ce moment-là est prise de haine.
Oui, après, ça peut... Le risque dans la description de ces scènes-là, c'était tomber dans le cliché... de la belle-mère qui est encore jalouse de sa belle-fille parce que c'est son fils. Tout ça.
Oui.
Donc il fallait éviter que je tombe dans ce cliché-là. Parce que le rapport est beaucoup plus complexe entre la grand-mère et son fils, c'est-à-dire celle qui commande le livre. Le rapport est très complexe.
Bah, celle qui commande la vie.
Voilà,
elle commande le livre, mais elle commande la vie. Elle appelle son fils parce qu'il y a le grille-pain qui ne fonctionne pas. Elle le rappelle parce qu'il y a le clapet de la machine à laver qui ne fonctionne pas. Et lui, avant de la voir, il s'habille, il se parfume. Et ce jour-là, quand il rentre de chez les flics, il rentre en jogging, en mou. Enfin, bon, et elle comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais le fils qui se parfume et s'habille pour aller voir sa mère qui est de l'autre côté du Troène, c'est quand même énorme cette histoire.
Oui, et qui lui donne de l'argent quand il vient lui réparer une ampoule. Alors, je ne dirais pas ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de fictionnel dans tout ça, mais je pense que ce sont des indices que je mets dans le livre pour montrer comment on peut fabriquer un monstre, entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui n'est pas tangible. Qui ne vit que par une fonction, un statut, un rôle dans la société.
Bah Manon,
surtout lui, parce qu'il
est. Manon, c'est un monstre.
Elle aussi, mais elle a un côté. Elle est jeune encore, elle peut encore.
Grandir. Elle se construit quand même dans une certaine perversité.
Moi, il y a un personnage qui m'a fasciné, c'est le docteur Jean-Claude Roman, là. Vous savez, ce faux docteur qui a tué toute sa famille à la fin quand il allait être. Et ça m'a toujours fasciné parce que je pense avoir vécu avec un père légèrement mythomane, comme ça, pas jusqu'au meurtre, hein, mais dans cette manière de fonctionner, c'est-à-dire de passer sa vie à mentir et à se construire un personnage sur lequel on s'appuie, mais un jour ça s'effondre, ça
s'écroule. Le mensonge construit. La vérité n'aura pas lieu. Frédéric Viguier, chez Plomb. Flaubert disait que ce n'est pas avec des bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature. Bah, je peux vous dire qu'avec La vérité n'aura pas lieu, on est servi. C'est haletant, poignant, vertigineux. J'évoquais l'épilogue, à la toute fin, vous relisez le roman sur un autre point de vue quand l'obscurité l'emporte, et c'est génial. Merci Frédéric Viguier pour votre visite. Merci à toute l'équipe technique, Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard, Camille Meyer. Demain mercredi, nous irons au cinéma avec Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borne et Bernard Midioni pour évoquer les films de et sur Noël qui nous ont marqués. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.